Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
3, 2, 1. Tout feu, tout flamme, telle est l'approche de Denis Gravel en entrant dans le studio. Je me dis, mais voyons, qu'est-ce qui se passe avec Denis? Il a de l'air revigoré. Est-ce que c'est le but de Cole Caulfield hier?
Eh mon Dieu, quelle manœuvre incroyable!
J'essaie de faire ça dans la Ligue des garages, ça marche jamais. Puis c'est contre des gars qui ont de la misère à patiner comme moi. Et lui, il fait ça dans la Ligue nationale contre un joueur de hockey professionnel puis un gardien de but professionnel. C'était de toute beauté.
J'imagine que tu dois le savoir hein, quand tu scores un but qu'ils vont montrer à chaque fois qu'ils vont faire un montage de tes meilleurs moments. Puis celui-là, il tombe dans cette catégorie-là. Ouais. Quel but incroyable!
C'est pas aussi impressionnant que celui d'Alexander Ovechkin quand il a réussi à marquer quand il était sur le dos. Tu te souviens-tu de ce but-là? Il était juste accepté. Tu disais, mais voyons, il veut tellement la rondelle que même quand il est rendu sur le dos, il sait exactement où le net est. Là.
La feinte est tellement rapide de Cole Caulfield. Oui. C'est pas contre n'importe qui, là. C'est contre Salabrini, qui est en liste pour être recrue de l'année, Ligue nationale de hockey. Une feinte qui est tellement rapide que faut que tu attendes le ralenti pour comprendre comment il a réussi à manœuvrer la rondelle de cette façon-là. Au début, je pensais qu'il avait fait... J'ai vu cette feinte-là une fois ou deux dans Ligue nationale.
Ouais.
Tu sais, quand tu passes la rondelle entre tes propres patins là, pour aller la chercher, c'est pas ça qu'il a fait... Mais c'est tout le temps impressionnant de
lui,
voir.
Lui, il a fait la feinte pour la passer entre ses propres patins, mais il se l'est rapproché proche du patin extérieur.
Hallucinant.
Après, il est venu le rechercher puis il l'a monté en haut. C'était de toute beauté.
Yes.
Hey, salutations au col bleu de la Ville de Québec. Ils ont recommencé leur horaire à partir de 16h hier. Il y a des gens qui nous ont rapporté qu'il y a des trous. Des nids de poules qui sont en train de se faire réparer par les cols bleus. Donc, un gros merci. Je pense que ça va faire du bien. Je ne sais pas si tu as constaté l'état actuellement avec le redoux qu'on a eu. Puis il gèle, dégèle, mais les routes sont maganées comme pas possible.
Louis XIV a plusieurs cratères lunaires qui ont été remplis dans les 24 dernières heures. Là. Mais là, c'était rendu qu'on chauffait toutes comme des ivrognes. Là.
Mais ça, c'est depuis la dernière guerre civile à Québec?
Oui, c'est ça. Ben, le fameux bombardement lévisien qu'on appelle. Mais ça fait du bien. Tout le monde gagne à l'auto-vidange aujourd'hui.
Oui.
On est tous revenus égal dans la Ville de Québec.
Et, ce que je me suis fait dire hier chez nous, tu repartiras pas avec tes vidanges demain matin.
Ça n'a pas de bon sens. Qu'un sac par jour.
Ouais. Mais là, j'ai conservé ma voie. Je ne pouvais plus aller dans la voie de covoiturage parce que là, j'avais plus mon sac de vidange avec moi. Fait que j'ai respecté les règles. Je suis resté dans le centre.
Il y a bien du monde qui sont considérés comme des vidanges. Hein. Fait que t'es obligé de compter ça pour une personne quand tu mets ça à côté de toi dans le char.
Ben là, t'es pas obligé de l'embarquer non plus.
Tu peux même y nommer un nom. Tu aurais donné quel nom à ton sac de vidange?
Eh hey boy, je m'embarquerai pas là-dedans.
Toi, parce Denis, t'as-tu une liste?
Gilles. J'en ai d'autres, t'en veux-tu?
Non, je veux qu'on arrête.
OK, c'est bon, on va faire autre chose.
J'embarquerai pas là-dedans parce que j'en ai une qui va me taper ses doigts. Mais OK, ça pourrait être lui, effectivement. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, c'est ça, j'ai fait la route. J'étais sur la capitale, puis je devais prendre du Vallon, donc Robert Bourassa, direction sud. Puis dans la courbe, Denis, là, comme tu disais, tu zigzags pour pas scraper tes pneus.
Ben
là, c'est tout détruit. Tu sais, la politique du plus bas soumissionnaire qu'on a au Québec là, depuis qu'on a décidé de voter ça, là, comme quoi l'entreprise qui va bêter le plus bas, c'est la meilleure des entreprises au monde, c'est elle qu'il faut que tu prennes. C'est ça tire à sa fin tranquillement, mais sûrement. Puis il y a de ça quelques années, dans le show du matin, tu avais reçu un individu, puis vous aviez parlé de ça, la politique du plus bas soumissionnaire. Puis il avait dit, effectivement, au gouvernement, on travaille là-dessus là, pour abolir cette politique-là, parce que on constate que c'est peut-être pas la meilleure des façons de procéder pour bâtir nos infrastructures. Je sais pas.
On constate que quand on paye plus cheap, on a du travail plus cheap. C'est un peu pareil, là. Il y en a des chandails de la Ligue nationale de hockey à 22 $ mais au premier lavage, il y a une manche qui va rester. La couleur va devenir fluo. Ouais. Ça va être marqué Canadien de Montréal.
Même à radio, on est capable de voir qui gagne moins.
Ah oui, c'est ça. Fait que, tu sais, à partir de là, si on veut du travail, particulièrement avec les hivers, les gels et les dégels qu'on a, si on veut avoir du travail qui dure plus que deux, trois ans, faut réussir à investir davantage juste sur Laurentien Nord. Là.
Ouais.
Comment est-ce qu'on appelle ça? Là? Les canyons qui se creusent.
Les roulières.
Les roulières. Les roulières sont rendues criminellement dangereuses dans la voie du centre. Particulièrement quand il y a du trafic lourd, puis quand il y a du monde qui se dépasse et ainsi de suite.
Quand il pleut et autres. Mais moi, je me suis toujours demandé, est-ce qu'il y aurait manière de faire un constat financier du nombre de fois où on l'a refait, le coût que ça a été, versus un coût avec peut-être meilleure façon de faire et des employés, je sais pas, formés pour ça. Je dis pas qu'ils sont pas capables, mais vous comprenez le point. Est-ce que ça nous coûte plus cher, cette loi du plus bas soumissionnaire? C'est ma prétention.
Ça nous coûte plus cher, puis les gouvernements fonctionnent au mandat. Donc, tu vas payer moins cher pour de l'asphalte et des travaux de moins bonne qualité qui vont être à refaire le prochain mandat électoral. Parce que c'est pas payant pour eux autres de dire « on va payer plus cher, on va dépenser plus, ça va être des journaux, on va mal paraître, on va faire du meilleur travail qui va peut-être tenir 8 ans, 10 ans, 12 ans ». Il n'y a pas un gouvernement qui fait ça et c'est malheureux. Puis c'était Découverte, je pense, qui avait fait un reportage là-dessus sur la façon dont, justement, on met de l'asphalte en Ontario et dans le nord-est américain versus ce qu'on faisait au Québec, à moins que vous m'appreniez que la politique a changé. Mais quand on regarde autour de nous autres, c'est pas l'impression qu'on a. Oui. On utilise de l'asphalte de meilleure qualité ailleurs.
Mais tout est normé. Ce qu'on me dit, moi, au ministère des Transports, c'est que tout est normé puis les entreprises peuvent pas tricher. À ce moment-là, qu'est-ce qui fait en sorte que nous autres, on a de la difficulté puis ailleurs, ils semblent avoir moins de difficultés? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. La politique du plus bas soumissionnaire, ce qui fait en sorte qu'on est obligé de refaire nos routes chaque année ou chaque deux ans, chaque trois ans, ça, visiblement, ça fait travailler nos gars dans la construction.
Oui, c'est ça.
C'est-tu fait pour ça? Je me pose la question. Ce qu'on m'a déjà dit, c'est qu'il y avait une certaine qualité versus l'assurance qui était fournie. Donc, si tu fais un projet à quelque part, ben pour rouler sur l'asphalte tout de suite, tu peux pas le faire.
Okay.
Parce que faut que l'asphalte, elle refroidisse, puis ça prend un certain temps avant qu'elle refroidisse. Donc, tu peux pas faire rouler des voitures dessus ou des camions lourds tout de suite. Mais au ministère des Transports, on veut rouvrir les tronçons très rapidement, fait qu'ils le font, donc la garantie s'annule.
Moi, OK,
pour ce qui est de l'entrepreneur qui, lui, a décidé de faire ce chantier-là. Après ça, c'est des hommes et des femmes d'affaires. Donc oui, ils ont remporté le contrat en étant le plus bas soumissionnaire, mais de l'autre côté, en bout de ligne, il faut qu'ils tirent un certain profit de ça. Fait que s'ils sont pas capables d'aller chercher le profit, ils resteront pas longtemps en affaires. Fait que est-ce qu'ils coupent les coins ronds? Est-ce que les inspecteurs qui sont là, puis je te l'ai déjà raconté cette histoire-là, un gars avec qui je joue au deck, il me dit « Je vous écoutais à midi là, parler de la politique du plus bas puis soumissionnaire, puis vous connaissez rien à ça. » J'ai parfait, explique-moi-le. Puis là, il me dit « Moi, là, je suis surveillant ces chantiers, puis je veille à ce que tout soit fait, puis que tout soit fait convenablement. » J'ai dit « OK, c'est beau, c'était mon gardien à l'époque. Je salue Pierre-Luc. S'il nous écoute, il va être encore fâché. » Il dit « Explique-moi, tu sais, y a-tu des fois où tu t'es appelé comme à l'autre bout du chantier puis il coule quand même la matière qui ne doit pas couler. T'es, on se longtemps que tu es là parce que toi, il faut que tu ailles prendre ton fameux thermomètre pour voir si c'était à bonne température. » Il dit « Oui, ça arrive. » Je dis « Parfait. » Je dis « Mais quand ils le font, est-ce que tu leur dis d'enlever le matériel puis après ça, faire venir un autre camion pour que ce soit à bonne température? » Il dit « Ben non. » Il dit « Parce que moi, j'ai de la pression. Il faut ching parce que sinon, le foreman du chantier va me chialer après. »
Ben voilà.
Ben, t'es en train de dire ce que nous autres, on a dit sur l'heure du midi.
Tu sais, on observe des choses en tant qu'automobiliste qui ne font pas de sens. Tu viens de terminer des travaux sur de la capitale, puis tu recommences à les refaire où tes travaux ont débuté parce que l'asphalte que t'as mis tient pas.
Permettez-nous de se questionner.
Tu sais, déjà, il y a des roulières, déjà, il y a des manquements, puis si on veut rajouter à ça l'histoire des cratères lunaires, là, on est dans la saison des travaux temporaires. Parce que tant que ça va geler puis que ça va redégeler, on fait ce qu'on appelle du patchage en attendant les vrais travaux. Puis, tu sais, je vous parlais de Louis XIV tantôt. Louis XIV, à hauteur du Trécoré à Charlebourg, il y avait un trou monumental. Ils sont venus le patcher ce matin. Je suis passé ce matin pour aller porter mes enfants à l'autobus. Je suis repassé il y a 45 minutes. Il est déjà à refaire. Okay,
parce qu'ils ont mis de l'asphalte froide.
C'est ça.
Beaucoup de choses par texto. Quelqu'un qui, entre autres, dit « Oui, c'est normé, mais des fois, les entrepreneurs mettent de la marde en dessous et mettent le bon gravier sur un bon 6 pouces sur le dessus. » Quelqu'un d'autre qui dit « Au Nouveau-Brunswick, quand j'applique sur des appels d'offres, il y a toujours un système de points qui prend en compte le prix, les résultats passés, les références, si la compagnie est de la place et quelques autres petits points. » Donc, c'est pas nécessairement le plus bas soumission là-bas, puis bon, il trouve que probablement que c'est bien fait. Quelqu'un d'autre qui dit « Le problème, c'est que les normes sont pour un type de terrain seulement, mais au Québec, il y a plusieurs types de terrains, donc on peut pas appliquer la même chose partout. » Quelqu'un d'autre qui va avec un autre problème, qui serait pas nécessairement le plus bas soumissionnaire parce que même si tu prends le plus cher entrepreneur, tu vas prendre son pavage chez le même fournisseur avec les mêmes exigences que la MTQ demande pour les formules de pavage. Fait que là, ça serait un peu dans l'application qu'on est en train de trouver une problématique. Quelqu'un d'autre qui dit il y a des bons entrepreneurs, il y en a des pas bons. C'est comme les animateurs de radio. La ville ou le ministère devrait pouvoir tasser le plus bas soumissionnaire si sa cote est mauvaise. L'asphalte est posé, et c'est la même, là, ça vient des mêmes usines, quelqu'un qui réitère ça. Mais c'est l'entreprise qui la pose, pour laquelle on peut juger un peu de la qualité.
Et puis là où j'embarque avec toi, Denis, à 150%, c'est est-ce qu'on pourrait faire le gros calcul sur 20 ans? Là, le nombre de fois où tu as refait ce tronçon-là versus ce que tu aurais pu faire à la place. Souvent, ils nous ont parlé des autoroutes de béton. Si tu prends Henri IV là, oui. vers la route qui mène à la base militaire de Valcartier, c'est fait en béton. À l'époque, on m'avait expliqué, puis je ne sais pas si c'est vraiment ça, c'est peut-être juste une légende, mais on m'avait dit qu'on avait mis du béton à cet endroit-là, advenant le cas où il y a une Troisième Guerre mondiale, mais on pourrait mettre du matériel sur cette autoroute-là qui ne causerait pas problème parce que c'est fait en béton.
Okay.
Mais on m'a toujours dit qu'à la grandeur du Québec, si on faisait ça tout en béton, ça coûterait trop cher. Mais sur 20 ans, on est-tu gagnant ou on l'est pas?
C'est ma question. J'aimerais ça qu'on fasse un constat. Puis j'avais fait une demande d'accès à l'information à un moment donné pour une route qui était refaite. Puis ce qui était arrivé, c'était caviardé. J'avais jamais réussi à avoir une réponse.
Le cycle de la petite semaine rapporte à tout le monde. Tu fais des réparations en tant que gouvernement, ça coûte pas trop cher, puis tu te dis, ça va tenir les 4 ans du mandat, puis après ça, ben, on recommencera, ou les autres qui vont nous suivre feront la grosse job ou ils feront la même chose que nous autres. Les employés reviennent régulièrement sur les routes, donc il y a toujours de la job pour les entrepreneurs parce qu'ils sont toujours appelés à revenir. Puis nous autres, on est exigeants aussi, on fait partie du problème. On veut que les routes soient fermées le moins longtemps possible, on veut rouler le plus possible sans problème, puis ça fait en sorte que tout le monde se sent un petit peu poussé dans le cul, j'imagine, pour faire en sorte que les travaux soient vite faits, mais pas nécessairement bien faits.
Mais au bout de 20 ans, 30 ans, si tu l'as fait en béton versus où tu l'as fait constamment en asphalte, qui est plus gagnant dans l'histoire? Je serais curieux de savoir. Si vous êtes des spécialistes là-dedans, écrivez-moi 418-971-1021 par texto. Hier soir, quand je me suis couché, j'ai pensé à une personne. Non, je ne me suis pas masturbé. Éric Kerr. Il faisait bon de ne pas être Éric Kerr hier. Ça a dû être une grosse journée pour lui.
Tout le monde s'est essuyé les pieds dessus.
Puis à un moment donné...
Ça m'est-tu rendu compte?
À un moment donné, il y a comme un soulagement. C'est-à-dire là, tu as perdu ta job. Tu sais que tu restes député. Puis tu sais qu'après ça, il faudra que tu trouves une job. Fait que j'imagine que ça a été comme un soulagement. Moi, je pense qu'Éric Kerr est détenteur d'un secret qui va peut-être nous livrer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Moi, j'aimerais qu'il le fasse actuellement, mais il ne le fera pas parce que c'est un gars d'équipe. Puis François Legault et lui s'aiment beaucoup. Mais je pense qu'il est détenteur d'un secret qu'il va devoir garder. Mais est-ce que c'est malhonnête de garder ce secret-là et de prendre tout le blâme sur ses épaules?
Tu sais, un gars d'équipe, c'est un gars d'équipe. Et on a demandé à Éric Kerr de prendre la balle pour tout le monde. Mais tout le monde voit clair dans le jeu du gouvernement. Puis j'ai l'impression que l'histoire, qui a déjà changé 2 fois depuis le début de la semaine, on va avoir une autre version qui va s'ajouter. Parce qu'il n'y a aucun scénario logique où Éric Kerr prend la décision lui-même de signer des autorisations pour cacher des dépenses supplémentaires de centaines de millions de dollars. Il n'y a aucun scénario où Éric Kerr a la confiance de faire ça, Éric Kerr a l'autorité de faire ça. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. C'est impossible qu'il n'aille pas demander la permission à quelqu'un de plus grand dans ce gouvernement-là. En tout cas, à mon humble avis, maintenant, on a décidé de s'essuyer les pieds dessus, puis on lui a dit... Sois un valeureux soldat, prends le texte qu'on te donne, mets ça sur tes réseaux sociaux, tu vas voir, tu te reproches rien. T'as peut-être, t'as peut-être trop fait confiance. Ça, c'est très québécois. Hein? Hey, mon plus grand défaut, là, c'est que je fais confiance aux gens. Je suis pas nono, je fais confiance aux gens. Mon plus grand défaut, moi, c'est d'être humble.
Mais on a tous le défaut de notre qualité. La naïveté vient un peu dans la confiance qu'on a envers les autres aussi.
Mais on s'en allait en élection lorsque lui a signé ça. C'est un dépassement de coût de 222 millions de dollars. Je suis d'accord avec vous autres que c'est clair et net qu'il n'a pas pris la décision lui-même de signer ça sans en avoir parlé à personne. Est-ce que c'est François Legault ou est-ce que c'est Martin Koskinen qui lui a conseillé de le signer puis de ne pas en parler? Parce qu'il y avait un danger pour le gouvernement. On s'en allait en élection. Il y avait un danger pour la CAQ à ce moment-là.
Là, on lui a dit, écoute, tu perds ton ministère, de toute façon, là, il y a trop de feu, il y a trop de boucanes, tu vas rester député, chill out, on termine le mandat, l'objectif, c'est de pas aller en partiel, parce que la dernière fois qu'on est allé en partiel, on s'est fait dévisser, Ça a créé un buzz ultra négatif sur le gouvernement et la CAQ à la grandeur de la province. D'ailleurs, il y a des sondages qui montrent que présentement, le taux de confiance envers la CAQ est vraiment pas élevé, entre autres pour la gestion des finances publiques puis un paquet d'autres choses. Ils veulent pas aller en partiel. Fait que la négociation s'est probablement faite comme ça. Tu partiras discrètement à la fin de ton mandat, puis après ça, tu feras bien ce que tu veux. Mais Éric Kerr, je pense, est devenu tellement toxique que même Éric Duhaime s'en approchera pas alors que les deux se connaissent bien puis s'entendent bien, là. Je sais pas c'est quoi la suite pour Éric Kerr, mais il semble être l'agneau sacrifié. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont contents. Bon, tabarnouche, t'as le temps qu'il enlève son ministère. Il y a tellement eu de scandales, il y a tellement eu de bordel. Mais même ceux qui célèbrent le départ d'Éric Kerr, tu sais, il faut s'ouvrir les yeux puis constater qu'effectivement, on l'a pitché en dessous de l'autobus pour faire en sorte que les autres restent en place, là.
Parfait. Les prochaines élections, c'est en 2026. Ça va être le 5 octobre 2026, donc dans quelques mois, là. La circonscription d'Éric Kerr, il est là, il est le député. Ceux qui suivent le beat à tous les jours au Parlement sur la colline disent Éric Kerr, il est très, très discret. Il semble être très, très, très discret dans son comté. Là, d'ici au 5 octobre 2026, là, on a un député qui sera probablement pas présent dans son comté, qui parlera pas à personne à l'Assemblée nationale.
Un fantôme.
Ça va être un fantôme. Oui. Je trouve que les gens de cette circonscription-là vont être mal desservis.
Ben
pourquoi
oui.
François Legault décide pas de faire des partiels à cet endroit-là?
Parce qu'il va se faire laver. Puis Éric Duhaime va rentrer. Si on regarde les projections actuelles, c'est ça qui arrive. C'est la porte d'entrée d'Éric Duhaime à l'Assemblée nationale.
Donc, on le bloque.
Ben, on fait de la politique.
C'est-tu légitime?
Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Puis en même temps, à chaque fois qu'il y a une partielle, on s'arrache les cheveux en disant que ça coûte tellement cher, puis ainsi de suite. Mais là, c'est pas un départ. C'est un cas d'incompétence. Puis je pense que les gens de la circonscription, faudrait peut-être leur demander, d'ailleurs, « Hey, aimeriez-vous ça, vous autres, qu'on fasse une partielle tout de suite? » là? Parce que effectivement, dans le cas d'Éric Kerr, il va être fantomatique, il va être terriblement discret jusqu'à la fin de son mandat, parce qu'on va lui demander. Dis-le, cache-toi d'un rideau à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il a peut-être commencé hier. Il a-tu mis son masque parce qu'il avait la grippe ou qu'il pensait qu'on n'allait pas le reconnaître? Je sais pas. On le saura jamais.
C'est dur d'aller chercher une canette de Pepsi. Là,
ça n'a aucun lien, là. Mais quand je vois des gens encore arriver au Palais de justice de Québec, là, des gens qui savent que leur histoire va être médiatisée puis ils n'en sont pas très fiers, ils se mettent justement ce fameux masque d'en face
ben
pour
oui.
être sûr de ne pas se faire reconnaître. Mais pour ce qui est d'Éric Kerr, je ne suis pas sûr. Je pense qu'on a des photos d'avant et après.
Oui, puis tu parles de photos d'Éric Kerr. Tout le monde a stické là-dessus hier. La photo d'Éric Kerr qu'on a mis sur les réseaux sociaux de la CAQ pour le remercier de son bon travail.
Oui.
J'ai parlé avec un photographe au Journal de Québec qui m'avait avoué que quand tu voulais mal faire paraître quelqu'un, par exemple, qui est accusé au palais de justice, ben tu prenais les pires photos. Puis c'est ceux-là que tu mettais dans le journal.
Oui.
Avez-vous vu la photo que la CAQ a mis d'Éric Kerr hier sur ses réseaux sociaux?
J'ai essayé d'en parler à Yann en début de show, là. Je suis vraiment désolée. Puis là, je me disais, ils ont-tu cherché puis ils ont trouvé la moins pire? Ou...
Non. Ils ont mis la photo la plus rentemplant qu'ils pouvaient trouver, puis ils l'ont mis là.
Attends gênant.
Pas, tu l'appelles rentemplant, Star.
Oui.
Non, la photo la plus rentemplant.
Il m'avait dit à
non,
vrai
il a dit... Il a dit... La photo la plus.
Il m'avait dit qu'Éric Kerr, c'était vrai. Moi, je disais, Éric Kerr,
c'est
rentemplant.
Denis a eu un
doigté
politicien.
C'est pas trop ce qui se passe. Il est tout le temps heureux. Les gens, ils pilent dessus, ils s'en rendent pas compte.
Ouais.
Il a jamais rien fait de mal, mais c'est un fiasco.
Mais de toute manière, à quel moment tu remercies pour les services un ministre qui part dans ce genre de déboire-là?
Dans le mensonge.
Faites-le à l'intérieur du parti. La gang qui vous a élu ne veut pas voir ce type de public. À moins que je me trompe, là. Y a-t-il quelqu'un qui pense que je me trompe? Si oui, 88-971-1021, j'accepte toute vision, là.
En même temps, c'est peut-être pas le timing pour faire un bien cuit, là, suite à la perte de son ministère. Mais tu sais, il y a tellement d'affaires qui marchent pas. Tout le monde dans ce gouvernement-là a rien à se reprocher. Dans son annonce de départ, qu'il n'a sûrement pas écrit lui-même, Éric Kerr dit « Je n'ai rien à me reprocher ». C'est le même discours que Geneviève Guilbeault. Pourquoi Geneviève Guilbeault ne perd pas sa job?
C'est le même discours que Philippe Bond aussi.
Ben oui. Philippe Bond.
Je ne veux pas comparer leurs agissements. Je veux pas comparer leurs agissements. Mais on se permet beaucoup plus sur la place publique de commenter, mettons, les déboires comme ceux de Philippe Bond, qui ne s'excuse pas. Mais en termes de politiciens qui ne s'excusent pas de cette manière-là, je vois pas les agissements, je répète, je les divise de la même manière, mais je vois l'excuse qui n'en est pas une de la même manière.
Tous les membres, tous les ministres de la CAQ se défendent avec les mêmes phrases de la même façon. Puis vous allez me dire qu'il y a juste Éric Kerr qui part en gardant exactement le même discours que Geneviève Guilbeault, que son prédécesseur, voyons, j'oublie le nom, là, celui qui a été ministre des Transports avant elle. D'ailleurs,
Bonnardel.
François Bonnardel, exactement. Tu sais, tout le monde se défend de la même façon, puis il y en a un qui part, puis les autres restent. Ce gouvernement-là n'a jamais rien à se reprocher, à part peut-être d'être trop humble et peut-être aussi de faire trop confiance. On est du bon monde, nous.
T'as-tu
autres.
T'as-tu écouté la série Trailer Park Boys?
Non, j'ai pas vu.
Avec Bubbles?
Ouais. Tu voulais faire un parallèle? c'est pas gentil, ça. C'est rentemplant à Avril aussi, ça.
Et pourquoi on les laisse démissionner, hein? Pourquoi on les laisse démissionner? Pourquoi François Legault? C'est sûr que moi, je suis persuadé qu'il y a un deal entre François Legault et Éric Duhaime. Éric Kerr.
Oui.
J'ai pas d'informations à cet effet-là, mais pourquoi François Legault l'a tout simplement pas crissé dehors? J'ai mis fin à son emploi de ministre parce qu'il a menti.
Ouais. Mais c'est pas ça le message.
Ah non, c'est quoi?
Non, on laisse démissionner. Puis si tu lis très bien la déclaration d'Éric Kerr qu'Éric Kerr a pas écrit, il s'en va parce qu'il est devenu une nuisance pour son gouvernement, mais il faut bien comprendre qu'il n'a rien fait de mal et que lui n'a rien à se reprocher. Tu sais, tout est fait pour que tout le monde paraisse bien, qu'on dise pas les vraies choses. Puis là, on peut-tu passer à autre chose, là? On a fait des perquisitions dans les prisons, on fait des belles séances d'information du troisième lien. Le premier ministre se transforme en annonceur maison du Rouge et Or Football. Il a demandé à ses ministres de faire du bruit. Puis là, trouver des diversions. Éric Girard doit être sur le bord de sortir pour parler du retour des Nordiques. Là
on a annoncé...
C'est longtemps qu'on n'a pas vu Bernard Drainville aussi faire une allocution.
Ben, il est reparti ses symboles religieux. Exact. Fait qu'il est parti sur... il est en mode diversion aussi, lui.
On a annoncé le remplaçant d'Éric Kerr assez rapidement aujourd'hui. C'est Gilles Bélanger, qui est un gars qui est autour de 67 ans. Il a quand même un bon CV, là. C'est un propriétaire de business. Lui, est dans le secteur d'Harford, puis il devient ministre. Il a contribué aussi à développer dans le secteur d'Harford toute l'Internet, là, au moment où on devait faire développer ça. Il y a eu un centre d'innovation aussi. Ça semble être une candidature intéressante, là.
Fait qu'il y avait des gens qui étaient capables de faire ça, ce job-là, avant?
Ben, jusqu'à temps qu'on me dise que c'est le CV que Georges, que Gilles nous mentionne, c'est pas tout à fait vrai, là. Mais pour l'instant, ça semble être un bon candidat pour prendre la place d'Éric Kerr.
Ah, il y a une petite nuance, hein. J'ai pas organisé le réseau Internet. Je me suis branché sur le réseau Internet. J'ai ouvert le Wi-Fi de mon cellulaire et je me suis branché sur le réseau.
Ouais. Éric Duhaime, c'est-tu la star politique de la semaine avec son coup fumant qu'il a fait à la séance d'information de la Coalition Avenir Québec concernant le troisième lien?
Écoute, j'aurais tendance à te dire oui. C'est une bonne semaine pour Éric Duhaime.
Pourquoi nous autres, on trouve ça? Puis dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, dans Le Soleil, dans La Presse, puis sur les sites de Radio-Canada, on n'a pas fait grand état de ça.
Je pense qu'ils n'ont pas compris la joke. Parce que c'est une joke.
Ben oui.
Éric Duhaime s'est pointé là pour rire du gouvernement.
Oui.
Tu sais, dis-lui, il se pointe là, il a une maquette, puis il s'amuse. Puis je sais, tu sais, Éric Duhaime, à une certaine époque, parce qu'il a un sens de l'humour, Éric Duhaime, quand il se prend pas trop au sérieux, moi, je me souviens que c'était déjà déguisé en clown dans le temps qu'il était chroniqueur à la radio avec nous autres pour aller à des audiences du gouvernement où il disait que tous les gens qui étaient là, c'était des clowns. Puis c'était déguisé en clown, avec le nez de clown, puis la perruque de clown, avec des amis. Il était allé là, il s'est amusé. C'est un peu la même chose qu'il a fait cette semaine. Puis j'ai l'impression que les gens... dans les médias, plusieurs, en tout cas, l'ont comme pris au sérieux, alors que c'était pas ça l'objectif de la chose. C'était de dénoncer le vide de cette campagne d'information-là sur le troisième lien, alors qu'on n'a à peu près rien à informer, puis qu'on a déjà tout fait ça il y a 10-15 ans.
Parce que ce qu'on m'a dit, c'est qu'Éric voulait présenter avec Geneviève Guilbeault sa portion à lui du troisième lien pour essayer d'économiser de l'argent, tout ce beau monde-là dans la même pièce, puis tout le monde peut se jaser. Tu sais, l'idéal, là, c'est d'avoir plusieurs cerveaux qui sont créatifs, qui peuvent trouver des nouvelles idées. Et ça a l'air que ça aurait été refusé par Geneviève Guilbeault. Fait que lui, il a appelé à l'hôtel.
Il a loué la salle à côté.
Avez-vous une salle proche? Elle a dit, ben oui, juste à côté. Il a dit, OK, c'est beau.
Je la prends.
On la prend deux jours. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Je trouve juste ça plate que les journalistes n'aient pas parlé de ce projet-là. Est-ce que c'est un projet qui est plus viable que celui de Geneviève Guilbeault? Moi, je pense que pour l'instant, on pourrait les considérer les deux parce qu'on n'a pas vraiment plus d'informations. Là.
L'autre bon coup d'Éric Duhaime cette semaine, c'est qu'il a été le premier à souligner que le gouvernement n'irait pas en partiel puis qu'on allait sûrement garder Éric Kerr en nous référant à des sondages qui nous montrent que si jamais on s'en va en partiel, la CAQ va se faire humilier. Puis il sous-entend évidemment que ce qu'on essaye d'empêcher, c'est son entrée à l'Assemblée nationale. Au total, tout, c'est une très bonne semaine pour Éric Duhaime, puis c'est moi qui vous le dis, puis vous savez que depuis qu'il est rentré en politique, je le ménage pas bien, bien. Je trouve qu'il est parti dans des chasses aux sorcières trop souvent.
Les drag queens!
Oui, faut les dragon queens, là. Faut enlever les dragon queens des yeux de nos enfants, puis ainsi de suite.
Mais t'as raison, il y a d'autres choses. Là.
Oui, puis j'ai hâte que les conservateurs, dans l'ensemble, reviennent à la rigueur économique. Je pense que tout le monde a besoin de ça en cette période d'inflation. Puis peut-être laisser un peu le caricatural puis le folklorique de côté, là, tu sais.
Exact. T'as-tu des gros projets pour ce week-end?
Ben, on recommence à jouer au hockey.
Oh, l'horaire des cols bleus, là, c'est-tu revenu, les arénas et tout?
Ben, écoute, les associations de hockey avaient monté un horaire d'urgence pour la fin de semaine. Il reste en place. Et à partir de lundi, ben là, tout le monde reprend son horaire normal. Donc, les pratiques qu'on pensait pas avoir vont avoir lieu. Puis le reste du calendrier, jusqu'à nouvel ordre, à tout le moins, ben on revient au calendrier normal à partir de lundi. Je sais qu'il y en a que ça recommence en fin de semaine, mais du côté de hockey Charlebourg, il y avait des ententes avec l'aréna de Loretteville et ainsi de suite. Fait qu'on va jouer des matchs réduits en fin de semaine. Puis à partir de lundi, ben c'est le retour à la normale pour nos kids. C'était la seule alternative pour le syndicat des cols bleus.
Oui, effectivement, que ça tienne pour faut que ça tienne pour la semaine de relâche.
Ah, oui, oui.
Merci, Denis.
Hey, merci à vous autres.
Bon week-end.
Bonne fin de semaine.
Après la pause, c'est les jokes de mon oncle. Pascal adore ce segment-là. Elle a toujours, elle a toujours les meilleurs jokes. C'est un nouveau restaurant qui s'ajoute, Pascal, aux fromageries Victoria. Tiens, aujourd'hui, je vais prendre ce restaurant-là. C'est le restaurant Pat Smoke Meat. Tu as déjà été manger un smoke meat, là?
Oui.
C'est le meilleur smoke meat au Québec. Donc, ça va être un 50$ à gagner chez Pat's Smoke Meat aux Galeries Chagnon. C'est un resto qui va pouvoir vous surprendre. Vous n'avez pas aidé. Donc, merci beaucoup à la belle gang de Pat Smoke Meat qui ont entendu les jokes de mon oncle puis ont dit « Hey, on veut aussi greffer notre nom à ces fameuses blagues-là à Pascal. »
Les miennes, tes favorites et je gagne tout le temps.
Exact. Puis on va avoir notre Nathan virtuel aussi qui n'est pas là en présentiel, mais qui nous a enregistré 5-6 jokes.
Ah, oh, super, j'ai hâte. C'était pas malaisant partout la semaine passée. En passant, il y a des auditeurs qui m'en avaient envoyé sur Instagram récemment.
Oui.
Si jamais, vous pouvez juste me renvoyer.
Hein? 418-971-1021, 418-971-1021. C'est valable pour un 50$ chez Pat
Smoky. Denis, tu restes? T'aimes ça mettre ta job en jeu?
Ah, ben oui, c'est devenu une habitude. Hein?
T'aimes ça, le risque, toi? Ça te donne des petites...
Non,
c'est,
risquer...
un petit quelque chose à l'intérieur, non, là.
Denis, on
ça
dit
t'excite.
Qu'il y a un cours d'une heure sur la météo.
Ah!
Il va commencer dans les prochaines secondes. Salut, Denis.
Salut.
Bye.
Le samedi 22 mars,